Gulliver, l'hebdomadaire des livres, des images et des idées. À la rencontre d'un écrivain, d'un photographe ou d'un plasticien pour mieux décrypter le monde.
Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant.
Une production Divergence FM proposée par Alain Vaquier et réalisée par Bruno Bertrand.
Alors aujourd'hui, nous allons revenir sur un auteur connu et méconnu à la fois. C'est à l'occasion de la parution d'un hors-série de Télérama qui est consacré à Jacques Prévert. Jacques Prévert, un auteur que tout le monde croit connaître et que beaucoup ignorent pourtant. Ce n'est pas le poète pour enfants que l'on croit, ce n'est pas non plus l'individu détaché du monde que l'on imagine quelquefois. En tout cas, dans ce hors-série de Télérama, eh bien, on revient sur la vie, les amitiés, la carrière de cet homme un peu hors-série lui-même, à travers les textes, surtout les amitiés et les films réalisés par Marcel Carné. Minor Swing, enregistré par Henri Crolla, Henri Crolla et son quintet. Henri Crolla était un des musiciens favoris de Jacques Prévert et il a même enregistré avec lui Henri Crolla improvisant quand Jacques Prévert lui-même improvisait aussi en matière de texte. Alors Jacques Prévert, pacifiste, polémiste, internationaliste, anticapitaliste, Jacques Prévert aura été de tous les combats de son temps. Singulier chemin que celui de ce poète, fidèle en engagement et en amitié, par ailleurs éternellement attaché à l'enfance et à ses espaces de liberté. Alors nous allons essayer d'évoquer sa figure à travers quelques archives, et notamment un témoignage qu'il a accordé à un des spécialistes de la littérature à la télévision, témoignage où il évoque sa vie de jeune homme, ses débuts de poète, à Montparnasse, dans une maison qui était la propriété de Jacques Duhamel, celui qui a créé la Série Noire, et Jacques Duhamel accueillait dans cette maison qui était un ancien hôtel, il accueillait bien bon nombre de gens dont on va avoir les noms au fur et à mesure que Jacques Prévert évoque la vie dans ce quartier de Montparnasse.
Moi, ce qui me frappe quand on y repense, enfin un peu de l'extérieur comme ça, c'est que la rue du Château, ça a été un peu une sorte de phalanstère de l'amitié.
Oui, et puis...
C'est un peu ça.
C'était un bel endroit, puisque on voyait encore sur la porte chiffonnier. C'était agréable. L'inscription restait de ce que c'était autrefois, avant de devenir une luxueuse maison édifiée par les soins de Marcel Duhamel. Et c'est justement ce qui avait de bien, c'est que Marcel Duhamel, lui, il dirigeait un grand hôtel, et là c'était justement un petit hôtel. Et comme il avait une générosité très particulière, c'était très agréable à vivre. Et beaucoup de gens passaient là. Plus tard, d'autres gens ont passé, et puis maintenant c'est démoli, il ne reste plus rien. Exactement comme un endroit qui était très joli, qui ressemblait à ça de l'extérieur, qui était le château Tremblant, qui était au canal de l'Ourcq, qui tremblait quand le train le passait. Il ne reste plus rien non plus. C'est joli, ces souvenirs qui sont complètement... Et alors justement, plus un souvenir est enlevé, effacé, plus il est présent. Parce qu'il n'y a pas de souvenir au fond. Si on évoque, s'il y avait une image pour le montrer, ce serait mieux sans doute. Alors j'espère qu'on en passera. Une peut-être.
Oui, mais en même temps, cette rue du Château, ça devient une espèce de chose mythique. Enfin, chacun l'imagine un peu à sa façon.
Ah oui.
Vous la voyez à votre manière, Duhamel la voit à la sienne.
Oui. Certainement Benjamin Perret, qui avait habité là, la voyait aussi d'une autre façon, exactement. André Breton, qui venait souvent, la voit aussi d'une façon, en général, agréable, par exemple. Aussi bien les gens qui venaient avec Giacometti, Robert Desnos, Queneau venait souvent là, beaucoup de gens.
Aragon
est venu, oui.
Avec Elsa Triomphe.
Il a habité après nous là-dedans, parce qu'il y avait, Sadoul qui habitait après. Sadoul qui est un historiographe de cinéma. Non, il habitait là après, mais c'était plus pareil.
Et puis ce qui m'a frappé dans ce que disait Duhamel, c'est le côté maison ouverte à tous les vents et à tous ceux qui voulaient y entrer. Enfin, c'était jamais fermé.
Non, les chats aussi pouvaient rentrer, puis après ils restaient.
C'était votre hôtel particulier de Montparnasse à tout
ça. C'était encore Montparnasse.
C'est le plein Montparnasse.
C'est le plein Montparnasse, oui. C'était beau Montparnasse. Mais on parle de Montparnasse aujourd'hui. Si les gens qui nous écoutent, on leur raconte un quartier, les téléviseurs, les téléspectateurs pour l'air plutôt, ou les télévisionnaires, ils nous regardent dans ce moment-ci, ils nous écoutent. Vous et moi, nous ne les voyons pas. Nous, on est dans la boîte. Bien. Il faut tout de même s'adresser à eux. Alors, je peux leur dire, moi, je parle d'une maison où nous avons habité avec des amis. Vous ne pouvez pas la voir. Elle vous intéresse ou ne vous intéresse pas. Mais la chaleur que nous prenons, que nous pouvons avoir à l'évoquer, existe. Et j'espère que vous pensez, voilà des gens qui ont été heureux ensemble, qui ont vécu ensemble, qui plus tard se sont fâchés. Se sont disputés, mais ces choses restent là. C'est vraiment quelque chose de... C'est l'amitié.
D'ailleurs, finalement, tout ce Montparnasse, c'est un prétexte à parler de l'amitié. Enfin, c'est un prétexte à parler d'une amitié chaude.
Enfin, et l'amour.
C'était ça, Montparnasse, en définitive.
Et l'amour aussi, parce qu'on parle toujours de l'amitié. Enfin, l'amour aussi, c'est l'amitié. Par exemple, le Montparnasse, moi, je l'ai déjà une fois. J'ai connu Montparnasse tout petit. J'allais à l'école... Rue d'Assas, Et dans cette école, il y avait une grande impasse pour entrer. Il y avait des peintres, des ateliers. Il y avait des modèles. Et ces modèles, moi, j'ai regardé avec plaisir. Et plus tard même, j'ai longtemps préféré les modèles à la peinture. Moi, j'ai connu Montparnasse avant la guerre de 14, pendant la guerre de 14, après la guerre de 14, et aujourd'hui, maintenant. Et si on est à Montmartre, j'avais habité Montmartre aussi, et Saint-Germain-des-Prés, et Saint-Sulpice. Ce sont les quartiers qui ont tous leurs saints, comme beaucoup de quartiers.
Mais si on vient une seconde à la rue du Château, un des personnages, je crois, les plus fascinants de la rue du Château, c'était Tanguy, non?
Tanguy, moi, j'ai connu Tanguy à Lunéville, dans la Meurthe-et-Moselle, près de Saint-Nicolas-du-Port. Nous étions soldats dans l'infanterie.
Vous faisiez de la peinture, encore?
Je ne faisais pas de peinture. Et, comme moi, on faisait de la prison. Enfin, et c'est là où je l'ai connu. C'était un personnage merveilleux. Après, on a vu rue du Château. Il s'est mis à faire de la peinture. Et c'est comme ça qu'au fond, je suis moi-même davantage intéressé à la peinture.
On aimerait être avec vous mieux le voir, mieux le connaître, Tanguy.
Tanguy, si on racontait ses histoires personnelles, elles n'appartiennent qu'à lui. Mais en tant que camarade, il était extraordinaire. C'est breton d'abord. Moi, je suis à moitié breton, mais lui était breton à part entière. Ma mère était auvergnate. Et mon père était de la Loire inférieure. C'est pas des vrais bretons. Lui, c'était un vrai breton. Et les gens peuvent reconnaître dans sa peinture quelque chose de breton, de même que les gens peuvent reconnaître dans la peinture de Picasso quelque chose d'espagnol.
Sûrement, tous ces galets, tous ces...
Et lui-même, son visage était la même chose. Mais il était drôle. Hein. Très drôle. À ces moments perdus ou gagnés.
Et je crois que Desnos s'est beaucoup intéressé à sa peinture aussi.
Bon, Desnos, c'était un merveilleux ami qui était... passer dans la rue et on le rencontrait. Quand on avait besoin d'argent, il vous en donnait. Quand lui en avait besoin, on lui en donnait. C'était ça l'amitié. Bon, c'était plus facile. C'était pas le même argent aujourd'hui.
Il passait rue du Château aussi?
Il venait toujours rue du Château. Beaucoup de gens passaient rue du Château. Bon. Et puis Roland Toal qui est mort, jusqu'à André Masson en passant. Au fond, Montparnasse également, c'était l'autre quartier aussi qui était réuni par Giacometti. J'ai longtemps demeuré chez Giacometti. Je connais plus tard, d'ailleurs, pour la rue du Château. J'ai longtemps demeuré chez lui. Parce que je ne sais pas où elle est. Il habite au même endroit. Il me donnait hospitalité. J'aime beaucoup Giacometti.
Voilà, une archive donc, de la télévision française consacrée à la vie de Prévert dans ce quartier très si important pour cette époque qui était Montparnasse. Alors, Jacques Prévert est un auteur qu'aujourd'hui... on chante dans les écoles, qu'on commence à étudier à l'université, on commence seulement. Jacques Prévert, poète, comme il le disait lui-même, « Je n'ai pas une carte avec poète écrit dessus. La poésie, ça court les rues. » Et il ajoutait « C'est un des plus vrais, un des plus utiles surnoms de la vie. » Alors il a été... pour l'un de ses presque derniers livres qui était censé livrer le secret de son art, de son talent, qui était dans la série, une série de livres qui s'appelait « Les sentiers de la création », eh bien, il a donné une interview à Pierre Dumayet, qui était un célèbre accoucheur d'idées en son temps, et il s'exprime justement à ce propos, avec toujours cette dérision qu'il avait, il s'exprime sur ce qu'est la création. Et vous allez voir avec une certaine désinvolture.
Je suis un des hommes les plus sérieux in the world.
Oui, d'accord.
Ouais. Mais moi, non, faut dire, c'est vrai, moi j'aime beaucoup Albert
Sciarra.
Sciarra, hein, depuis longtemps. Il m'avait demandé de faire un livre, d'images. Au fond, ce livre, c'est comme une bande dessinée. Je ne sais pas si c'est à la mode, les bandes dessinées, mais... J'ai lu beaucoup quand j'étais petit. Alors, j'ai dit oui, ça me plaisait, puis j'aime beaucoup faire un livre à Esquira. Puis après, j'ai vu que ça s'appelait « Les sentiers de la création ». Je ne dis pas que ça m'a fait le froid dans le dos, parce que je ne suis pas tellement frileux, Oui, ça m'ennuyait, je suis très poli. C'est un. C'est un titre. Alors, je parlais un peu des sentiers, des créations proprement dites. Parce que moi, au fond, je crois toujours à ma jeune expérience. Quand j'étais enfant, on m'expliquait les créations. Par la suite, toute réflexion faite, on est trouvé que ces explications étaient une connerie. Alors, le mot création ne me fait, je sais pas, ça ne me fait pas grincer les dents, mais enfin, ce n'est pas une chose qui est fort agréable.
Barbara. Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là, et tu marchais souriante, épanouie, ravie, ruisselante, sous la pluie. Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest, et je t'ai croisé rue de Siam, tu souriais, et moi je souriais de même. Rappelle-toi, Barbara, toi que je ne connaissais pas, toi qui ne me connaissais pas, rappelle-toi. Rappelle-toi quand même ce jour-là, n'oublie pas. Un homme sous un porche s'abritait, et il a crié ton nom, Barbara. Et tu as couru vers lui sous la pluie, ruisselante, ravie, épanouie. Et tu t'es jeté dans ses bras. Rappelle-toi cela, Barbara. Et ne m'en veux pas si je te tutoie. Je dis tu à tous ceux que j'aime, même si je ne les ai vus qu'une seule fois. Je dis tu à tous ceux qui s'aiment, même si je ne les connais pas. Rappelle-toi, Barbara. N'oublie pas cette pluie sage et heureuse sur ton visage heureux, sur cette ville heureuse, cette pluie sur la mer, sur l'arsenal, sur le bateau louessant. Oh Barbara, quelle connerie la guerre! Qu'es-tu devenue maintenant? Sous cette pluie de fer, de feu, d'acier, de sang. Et celui qui te serrait dans ses bras, amoureusement, est-il mort, disparu, ou bien encore vivant? Oh Barbara, il pleut sans cesse sur Brest, comme il pleuvait avant. Mais ce n'est plus pareil, et tout est abîmé. C'est une pluie de deuil terrible et désolée. Ce n'est même plus l'orage de fer, d'acier, de sang. Tout simplement des nuages qui crèvent comme des chiens. Des chiens qui disparaissent au fil de l'eau sur Brest. Et vont pourrir au loin, très loin de Brest, dont il ne reste rien.
Alors Prévert, homme de lettres, est tout à fait célébré dans ce hors-série de Télérama qui lui est consacré, mais également... ce document fait la carrière de Jacques Prévert, scénariste et homme de cinéma. À peu près la moitié du document lui est consacrée. Je vous propose d'écouter comment Marcel Carnet, donc son comparse pour un certain nombre de films, l'a rencontré et dans quelles circonstances ils ont réalisé leur premier film.
Nous avons eu un jour entre les mains un scénario d'un journaliste niçois qui s'appelait Pierre Rocher. Un scénario qui portait un titre un petit peu curieux, qui causait quelques appréhensions, qui me causait quelques appréhensions. Ça s'appelait Prison de velours.
Joli titre.
Et il s'agissait vraiment d'une histoire, disons d'un mélo, disons-le sincèrement, un mélo. Et puis, j'avais tout de même cette occasion de commencer. J'ai dit, je vais risquer. J'aurais peut-être préféré une autre histoire, mais enfin, j'ai dit, je vais risquer. Et j'ai accepté auprès du producteur, et le producteur m'a dit « Alors, qui voulez-vous pour travailler avec vous ?» J'ai hésité un petit moment, et tout d'un coup, je me suis rappelé le nom d'un garçon dont j'appréciais beaucoup les poèmes et dont j'appréciais beaucoup le travail théâtral à l'époque. Il appartenait au groupe Octobre, et il avait fait une pièce qui s'appelait « La bataille de Fontenoy ». Et il y avait une phrase, entre autres, « Soldat de Fontenoy, vous n'êtes pas tombé dans l'oreille d'un sourd. » Et moi, ça n'était pas non plus tombé dans l'oreille d'un sourd, cette réflexion. Et bref, je dis, je voudrais travailler avec Jacques Prévert. Je m'attendais naturellement qu'on lève les bras au ciel, parce que prison de velours et Jacques Prévert, ça ne collait pas très bien. Et si on aimait prison de velours, on aimait moins Prévert. Et quant à ma grande surprise, le producteur m'a dit, « Mais Prévert, nous connaissons très bien, il vient de faire un film pour nous dans la maison. » Et Prévert avait fait un film très commercial, il fallait bien vivre, c'est un film très commercial, et c'est là que j'ai rencontré Prévert, que je l'ai amené, je ne dis pas amené au cinéma, parce qu'il venait de faire ce film, mais enfin, ça lui a donné des possibilités un petit peu de faire des choses un peu plus recherchées. Tout notre effort a consisté, à Prévert à moi, d'essayer de camper des personnages vivants, de trouver des personnages secondaires qui ajouteraient un petit peu à la réalité de tout ça, et enfin d'essayer d'enlever un peu le côté mélo de tout cela. Vous savez, j'avais été journaliste et j'avais écrit un jour « Quand le cinéma descendra-t-il dans la rue ?» On cherchait un peu à plonger dans la réalité, dans la vie. Et en tout cas, ça a été dès notre premier contact, après Prévert et à moi, ça a été notre souci. Il y a eu cette chose merveilleuse avec Prévert, je crois qu'on s'est complété. Je crois que ça a été une collaboration absolument idéale, absolument merveilleuse.
Voilà, donc, petit mystère, lorsqu'on consulte la filmographie de Marcel Carné et de Jacques Prévert dans cette publication de Télérama, eh bien, il n'est pas fait mention du film qu'évoque Marcel Carné ici. Mais bon, on dira que c'est une très belle histoire et que tout ça est très romanesque quant à cette rencontre entre ces deux personnages extraordinaire du cinéma français. Alors, il est un film qui a eu pas beaucoup de succès, dont on peut dire qu'il a été un échec commercial, mais qui a laissé un souvenir très, très long à travers sa musique. Ceci étant, Les Portes de la Nuit, donc, il semblerait que c'était un poème de Victor Hugo dans lequel Jacques Prévert aurait puisé l'inspiration du titre. Et alors le vers est celui-ci. « Ô Seigneur, ouvrez-moi les portes de la nuit afin que je m'en aille et que je disparaisse. » Ce film a donc laissé un souvenir grâce à sa musique. Quand je dis sa musique, c'était simplement une petite chanson dont je vous laisse découvrir le titre.
« Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. » Je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais, mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la face sur le sable, les pas des amants désunis. Sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit.
s'efface sur le sable, les pas des amants désunis.
Voilà, vous aurez reconnu probablement Yves Montand et les Feuilles mortes qu'il chantait à sa façon, dont il a fait l'un des fleurons de son répertoire. Alors, je rappelle cette publication donc, de Télérama en hors-série, Jacques Prévert. C'est une histoire de vie en images. Il y a énormément de documents photographiques et ça rend ce document assez précieux. Et puis, si vous vous intéressez aux archives sonores, eh bien, vous découvrirez dans la bibliographie de cette publication que bon nombre de documents sonores ont été édités, réédités, et qu'enfin, bien, l'œuvre complète de Jacques Prévert figure dans la collection Gallimard à la Pléiade, mais que pour ceux qui veulent avoir une approche plus économique, eh bien, on dira que dans le livre de poche et dans Folio en particulier, on trouve à peu près presque tous les titres de Jacques Prévert. Voilà, et ainsi s'achève cette émission de Gulliver. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.
Gulliver, l'hebdomadaire des livres, des images et des idées. À la rencontre d'un écrivain, d'un photographe ou d'un plasticien pour mieux décrypter le monde.
Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant.
Une production Divergence FM proposée par Alain Vaquier et réalisée par Bruno Bertrand.